Tout de suite, reparlons de l'OM, Jérôme, parce que c'est l'heure du bilan pour Pablo Longoria.
Si j'analyse globalement la situation, je crois que c'est une situation pour être content, pour être fier.
J'ai presque envie de lui dire, sur ces dernières années, il faut voir à quel niveau vous les avez dilépendés comme ça. Quoi.
Ici à Marseille, depuis que je suis arrivé, il y a un niveau de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens.
Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Une telle agressivité, c'est quelque chose d'inouï.
Viens là.
C'est jamais là, c'est Gourou.
Mais de quoi tu me parles? Je vais t'expliquer, viens ici.
Quel est l'objectif futur du club? Moi, le plus important de faire, c'est agrandir le club, stabiliser le club.
Arrêtez de prendre des lumières pour des lanternes.
Corruption dans les championnats de merde.
Après 5 années de présidence, Pablo Longoria a été écarté de ses fonctions cette semaine. Sans décision rien. Prise par l'actionnaire Franck McCourt. Mehdi Benatia hérite de tout le volet sportif. Un nouveau président sera élu prochainement, sera désigné plutôt par Franck McCourt. C'est Benatia qui a choisi le nouveau coach Habib Bey qui a été présenté aujourd'hui à Marseille. Longoria, lui, n'accepte pas d'être relégué à un rôle institutionnel. Il devrait entamer des discussions pour mettre fin à ses fonctions. Il a 39 ans, il est arrivé en 2020 à Marseille, d'abord en tant que directeur général du foot, puis en tant que président depuis 2021. Un passage marqué par quelques coups retentissants, on en parlera, et puis surtout par ce mot-clé, l'instabilité au sein de l'effectif et dans les bureaux. Valentin Jamin nous rejoint. Salut Valentin.
Bonjour messieurs, salut, bonsoir Valentin. À tous.
Mission délicate, tu vas nous dresser le bilan de Pablo Longoria à Marseille.
En 5 ans et demi, déjà le bilan sportif. Il n'a gagné aucun titre avec l'Olympique de Marseille en championnat. Il y a 3 podiums, dont une deuxième place. Pas de finale de Coupe de France, ça c'est un échec quand même du mandat de Longoria. En Coupe d'Europe, il y a eu 3 participations en Ligue des Champions. Jamais Marseille, en revanche, n'est sorti des poules. Et 2 demi-finales en Coupe d'Europe, une en Europa League et une en Conference League. Sportivement, on peut quand même dire aussi qu'ils se sont rapprochés du Paris Saint-Germain, en tout cas ces dernières années. Hors terrain, maintenant, Longoria, il est vite passé président, donc tu l'as dit Benoît, il a dirigé 7 entraîneurs, il a connu 7 entraîneurs différents, et je compte pas les intérims. Il y a également toujours eu des mercatos frénétiques. On compte, grosso modo, autour de 160 mouvements de joueurs sous son mandat, avec quelques réussites sportives, hein, Greenwood, Alexis Sanchez, Balerdi Rabiot, Saliba, par exemple. Il y a aussi des joueurs oubliés. Si je vous dis, voilà, Vitinha, Jean Onana, Conrad de la Fuente.
Ah ouais.
Ça, c'est pas des réussites.
Ouais, rappelle.
Ces dernières années, il a quand même réussi à rééquilibrer avec l'aide de Mehdi Benatia un petit peu les comptes. Et puis, il y a eu quelques déclats-chocs aussi. Il avait souhaité, rappelez-vous, réorganiser, mieux maîtriser la commanderie pour, je cite, éradiquer la maladie, puisqu'il trouvait certains salariés trop intrusifs. Beaucoup de directeurs dans l'administration ont été essorés, licenciés, sont partis sous Longoria, qui était impliqué dans les instances aussi pour représenter l'OM ces dernières années, mais qui a fini marqué par sa longue suspension avec de graves accusations contre l'arbitrage, notamment à Auxerre la saison dernière où il avait hurlé à la corruption.
Merci Valentin. La une de Rotten sans flamme, comment jugez-vous le bilan de Pablo Longoria à l'OM 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, comment tu le juges alors?
Bah, largement insuffisant dans tous les cas. Mais en fait, il y a plusieurs points où on doit juger Pablo Longoria. Déjà, Valentin le rappelait, sportivement, c'est loin d'être une réussite. Pas de titre gagné, des campagnes de Ligue des Champions et la dernière en date laisse vraiment à désirer et ça a souvent fait scandale par la suite et ça a valu souvent des changements d'entraîneur aussi. Donc ça veut dire que cette instabilité en termes de résultats, tu l'as ressenti en termes d'effectifs et en termes d'entraîneur. Comment tu peux dire que le bilan de Pablo, il est bon, que ce soit en tant que directeur sportif ou président, quand tu as changé, tu as connu 7 entraîneurs en 5 ans et demi. Donc ça, c'est pas possible. Et encore, je parle même pas de
l'intérimaire.
Intérimaire de Nasser Larguet et Abardonado. Donc, ce que je veux dire, tu peux pas y arriver. Mais moi, ça me renvoie à une époque que j'ai connue au Paris Saint-Germain, où en l'espace de 6 ans, j'avais connu 5 présidents et 6 entraîneurs. Donc c'est sûr que quand t'es joueur, tu peux pas y arriver avec cette instabilité-là, déjà dans l'équipe dirigeante. Et c'est bien là, en fait, que moi je reproche, le plus gros reproche que j'ai à faire à Pablo, c'est ça. C'est pourquoi être aussi instable? Assumez vos choix. Ce que je veux dire, tu peux te tromper sur un entraîneur, tu peux te tromper sur un deuxième entraîneur, te tromper sur sept entraîneurs, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc déjà, c'est la preuve.
Après certains sont partis, non, mais... certains ont été poussés dehors, il y a des cas différents.
Oui, non, mais il y a des cas différents, c'est pour ça. Donc, mais quand même, en 5 ans et demi, 7 entraîneurs, c'est beaucoup trop et c'est complètement instable et tu peux pas construire. Et puis à côté de ça, il y a le nombre de mouvements, 160 mouvements. Ouais. Non, mais vous imaginez, 160 mouvements. Non, mais on en rigole, mais franchement...
Je pense qu'on n'arriverait même pas tous à les citer.
Les finances, j'espère que les finances de Pablo... Elles ont bien tourné, parce que sur 160, et du directeur sportif de l'époque et du directeur sportif d'aujourd'hui, parce que pourquoi on a émis beaucoup de critiques, et j'ai émis beaucoup de critiques sur les méthodes de Mehdi Benatia aussi, c'est parce que cette instabilité chronique qu'il y a dans ce club, c'est voué à l'échec. Et ça a toujours, toute génération, et arrêtez de me dire que le football il a évolué, il a changé, le football c'est toujours le même, d'accord ? On joue à 11 contre 11, le terrain il est à la même distance pendant 90-95 minutes, à l'époque de Jean-Michel c'était le cas, à mon époque c'était le cas, Sud-Tony pareil, mais c'était à peu près la même que la mienne, et aujourd'hui c'est la même chose. Et quand on était dans un vestiaire pour tirer le max d'un club qui a des ambitions très élevées comme l'Olympique de Marseille, et des moyens aussi importants, parce qu'ils ont quand même des moyens importants, la meilleure des chose, c'est déjà d'être stable à l'équipe dirigeante et dans le vestiaire, d'accord ? Donc quand tu fais, qu'on m'explique comme ils veulent, que oui, mais ils sont obligés financièrement, ceci, cela et tout, ok, mais dans ces cas-là, arrêtez de nous vendre que vous avez des objectifs élevés, parce que tu sais que ça peut pas, l'un va avec l'autre, et l'un sans après, l'autre, c'est pas possible. Donc, à l'arrivée, c'est un échec total de ce côté-là. Et là, moi, je finis là-dessus parce que je vais être sinon très long et on peut en parler pendant des heures avec Pablo Longoria. L'autre reproche que j'ai à lui faire, où je trouve que c'est largement insuffisant pour un dirigeant et un président d'un grand club comme l'Olympique de Marseille, et qu'il a été, c'est la communication. La communication. Comment tu peux vendre du rêve autant aux supporters après des bons résultats? Et ça a continué cette année. Les contradictions de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, c'est terrible. À l'arrivée, je pense même qu'il y a beaucoup de mensonges. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que moi, j'aime bien les gens face à moi et face à nous dans le football, il n'y en a pas beaucoup et j'en ai parlé hier de ces fameux faux culs. J'aime bien les mecs qui disent les choses franco. Tu t'es trompé, tu l'assumes, ok, et c'est pas pour autant qu'on doit te couper la tête. Lui, le problème, c'est que t'as toujours une petite porte de sortie. Oui, mais c'est normal et c'est la faute à un tel, tu rejettes la faute à là. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et demi et l'arrivée de De Zerbi? C'est que ce trio, on m'a expliqué que ce trio, ils étaient fusionnels, ils étaient ensemble, et que quand il y en aura un qui partira,
c'était peut-être le cas à un moment.
Vachement. Et quand il y en aura un qui partira, et ben les autres suivront.
Vous l'avez cru. Et
moi j'ai cru parce qu'on me l'a dit, Jean-Michel. Oui. On me l'a dit au téléphone comme ça, on me l'a expliqué. Alors bêtement, je les ai cru. Et ben à l'arrivée, regarde ce qui se passe. De Zerbi, il est parti. Ah bah si, parce que je suis vraiment trop con.
C'est parce que t'es un gentil garçon.
Je suis vraiment trop con.
Mais qui te dit que quand on te l'a dit, les gens n'étaient pas convaincus?
Oui, ils sont tellement convaincus.
L'effet de saison aussi qui font qu'il y a des tensions.
Il faut pas oublier qu'il est arrivé dans une période où il a repris le club. Le club était quand même bien mal. Après,
c'était Jacques Henriero qui voulait mettre des buts contre double en dehors de la surface.
Et je vous donne la parole et je finis là-dessus. Moi, il n'y a pas de problème de prendre le club dans un état, et c'est pour ça qu'il est arrivé, qui était catastrophique. Il a réglé. C'est pour ça que je dis que c'est largement insuffisant et c'est même décevant. Moi, personnellement, ma relation, elle est décevante avec lui et avec eux, mais il n'y a pas de souci. Après, tu sais, juste factuel, en effet.
Objectivement,
5 ans
passage.
Et demi, 7 entraîneurs avec aussi peu de résultats, c'est un échec.
Bon, vas-y Jean-Mi.
Mais il l'a pris dans un état catastrophique, j'en conviens, mais il le laisse dans quel état?
Oui.
Mais il le laisse dans quel état?
C'est pas si cata, Jean-Michel, l'état de l'OM quand même.
L'état de l'OM, moi j'aime bien.
La situation est catastrophique pour vous.
Mais attends, Benoît.
En termes de résultats,
je veux bien. Je veux bien, en termes de résultats, que je sache, ils n'ont rien gagné.
Rien.
On est
bien d'accord.
Oui.
Bon. Et là, en termes de mouvement, vous parlez des 160 joueurs. Mais le président délégué, c'est-à-dire le président salarié, et je pense qu'il ne prenait pas une petite pincée de sel à la fin du mois, ça c'est le problème de ma courte. Mais le président salarié, il s'occupe aussi du cap que va faire, que va avoir son club. Sur le plan, j'aimerais savoir combien, sur le plan administratif, il y a eu de mouvements. Parce qu'on parle des 160 joueurs, mais entre les entraîneurs et les administratifs dont on a parlé, puis dont on ne parlait plus, ceux qui arrivaient, ceux qui partaient, on doit être à peu près au même niveau. Et moi, je veux bien qu'on me parle de je crois que Valentin nous a encore parlé un peu de du domaine financier. Les gars, c'est un peu comme John, quand chaque fois qu'il passait devant la DNCG, le trou se creusait et on me disait que chaque fois ça allait mieux. Le dénommé McCourt, s'il a mis 600 patates sur la table. S'il a mis 600 patates, vous pensez que c'est parce que les finances vont bien?
Ah ben
mais c'est tout. Et quand vous parlez des actifs des joueurs, il y en a un qui me semble transférable avec un transfert conséquent. Il y en a un. Il n'y en a pas 36, il y en a un. C'est Greenwood.
Tu veux dire un joueur qui a une valeur marchande sur le marché, là?
Dans l'actif, oui.
Oui, c'est mais bon, ils vont te dire que Bacola et Vaz, ils les ont vendus 35 millions, tu vois, les deux. Comment? Cet hiver.
Bacola
et Vaz, ils les ont vendus 35 millions.
Je te parle dans l'effectif actuel.
Dans l'effectif actuel, oui. Tiens, Valentin, tu avais des précisions à porter sur le domaine
administratif. Oui, puisque Jean-Michel parlait des départs dans l'administratif, quelques noms, alors qu'ils ne vont pas parler au grand public, mais des directeurs administratifs, certains directeurs du football qui étaient adjoints de Longoria qui sont partis, Javier Ribalta, Mathieu Louis-Jean, qui fonctionne très bien maintenant à Lyon, David Friot, bon, il y a Benatia maintenant, et puis Alexandre Mial dans les bureaux, Pedro Irundo, Stéphane Tessier, Cécilia Barontini. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu, comme tu le disais, énormément de turnover. T'as tout retenu, Jean-Michel, tous les noms?
Tessier,
non, j'ai retenu Barranquelli et Tessier, l'homme fort du mois de mars 2024. Voilà.
Je vous dis, c'est que là, vos critiques sont vives, mais il y a eu une longue période sous Longoria où tout le monde était très satisfait de son travail. Hein. C'est plutôt sur ces derniers mois, voire les deux dernières années, que là, tout le monde s'acharne un peu sur lui.
Hein. Donc, j'étais plein d'espoir. Parce que, où voulez-vous qu'il aille prendre plus d'argent?
Non, mais puis il est malin.
Il a fait revenir, ils ont fait revenir du monde. 64 000 Jean-Michel, personnes.
Il est malin, mais le problème.
Non, il est pas malin.
Il pense être malin et c'est pour ça qu'il s'est offert, si tu veux, un peu de répit dans sa communication avec certains.
Ce qui est terrible, c'est l'image qu'il donne de Marseille.
Oui, mais ça a évité les critiques, Tony. Je sais pas, toi, ton avis, ce que.
C'est-à-dire, Tony.
Mais. En fait, si tu veux, le problème, c'est que Marseille, aujourd'hui, avec ses sorties médiatiques et tout, tu vois, ça a été que du négatif, en fait. Alors moi, je suis un peu moins critique que vous, parce que je pense quand même que l'équipe qu'il est aujourd'hui n'est pas si vilaine que ça.
Ah oui.
Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle est capable de faire des super trucs et que derrière, elle est capable d'aller te perdre à Bruges 3-0 et tu as l'impression qu'elle joue pas, qu'elle fait pas de match.
Les trois derniers matchs importants qu'il y avait à disputer, ils ont pris trois branlées. Et non, tu me dis, tu me parles d'une équipe, conséquente,
mais,
qui est fiable.
Mais je pense que tout. Non, mais
elle a perdu 11 ou 12-0 les trois derniers matchs.
Ouais.
Non, mais tout ça est lié par l'instabilité de ce qui se passe en ce moment, de l'entraîneur, pas entraîneur, les dirigeants. Est-ce que ça va être lui? Je pense que toute cette instabilité là, les joueurs, c'est pas possible que tu puisses avoir une équipe qui soit soudée, qui soit. Si déjà la tête du club, tu sais pas vraiment ce qui va se passer.
Ouais, donc, regarde, si je me fais un peu l'avocat du diable, Tony, Jean-Michel et Jérôme. Là, cet hiver, souvenez-vous, il présente le bilan financier de l'Olympique de Marseille au mois de décembre. On lui dit, enfin lui-même dit tout seul, il va falloir qu'on dégraisse l'effectif un petit peu. Ça, c'est une consigne qui est donnée par l'actionnaire.
Pourtant, ça allait bien. Hein,
ouais. Parce qu'on n'arrive pas à vendre à l'OM. Ça fait des années. Non, ça,
Benoît, s'il te plaît, arrête de parler comme quelqu'un qui considère que l'argent se trouve sous le pied d'un cheval. Il a dégraissé parce qu'il n'a pas été un bon président, il n'a pas bien géré les affaires. C'est aussi simple que ça.
A dégraissé parce que l'actionnaire lui a dit maintenant il faut récupérer un peu d'argent aussi. C'est comme ça que ça marche, Jean-Michel.
Ah ben, parce que tu crois qu'il a un tonneau sans fin?
Bah évidemment que non. Et regarde la situation du foot français. Ben sans, évidemment sans que faire, tout le monde cherche de l'argent, bien sûr.
Non, mais parce que moi, je veux bien que tu me parles de dégraisser. Il a réussi à dégraisser. Ils ont réussi en hiver. Tu vois.
Je vous dis pas que tout est idéal, mais je trouve que votre tableau est un peu noir. Mais non, en fait,
c'est noir. Pourquoi? Moi, je vais dire parce que déjà c'est Marseille. Oui, t'as raison, c'est Marseille. Mais surtout parce que on nous a vendu depuis l'arrivée de De Zerbi du rêve. C'est vrai. T'as pris un Cador avec 9 adjoints.
Le projet
c'était,
sur 3 ans.
C'était Guardiola. Ça y est, enfin la stabilité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Pablo, Mehdi et De Zerbi. Bon, moins De Zerbi parce que c'est l'entraîneur, c'est lui qui est choisi. Donc forcément, quand tu signes 3 ans, c'est que tu te vois sur un moyen terme, pas à court terme. Ok, contrairement aux autres entraîneurs qu'ils avaient pris, où ils savaient que c'était un one shot et qu'au bout d'un an, les mecs, ils pouvaient leur claquer dans les doigts. Et ce qui a été le cas.
Ce qui s'est passé.
Au bout d'un an, ils se qualifient. Et tout le monde, la plupart, là, dans Rotten sans flamme, parce que je ne veux pas parler des autres émissions et des autres médias, mais dans Rotten sans flamme, tout le monde est unanime pour dire, en effet, ils ont fait du bon boulot en un an, et enfin, on va trouver un peu de stabilité à ce club. C'est ce qu'ils nous expliquaient fin mai, quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Objectif atteint, la preuve, c'est que moi, je n'étais pas virulent sur eux. Au contraire, j'allais dans leur sens, parce qu'on me l'avait expliqué, parce que j'avais une relation directe avec eux, parce qu'on avait des joueurs. Je ne demandais pas des passe-droits, mais franchement, il y avait une bonne relation, et tu avais envie de croire à leur projet. À l'arrivée, tout a explosé sur l'affaire Rabiot, sur l'instabilité. On a commencé à être critique en disant « Mais attends, putain, tu finis deuxième, t'as 13 arrivées, t'as 15 départs. Bon, la stabilité, elle est où ?» Voilà. Et là, ils nous ont dit « Oui, mais l'effectif s'est renforcé, on a bien vendu, et ceci, cela. » Ok, pas de problème, on vous croit. Ouais, le mois de septembre se passe bien et c'est même étonnant parce que les résultats étaient bons. Et puis, ils dégageaient une force collective nouvelle. Et tu te dis « En très peu de temps, franchement, c'est des cadors, bravo. » Moi, j'ai toujours, au fond de moi, été sceptique de ça, comme beaucoup. À l'arrivée, quand ça a commencé à partir en vrille, le fameux trio qui était soi-disant très stable a commencé à se disloquer, à envoyer des trucs. Et là, le plus gros reproche que j'ai à faire, moi, à Longoria, par rapport à tout ce que tu viens de dire, les mouvements de joueurs. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, Tony. C'est juste gérer vos émotions. En fait, le problème de ces mecs-là, et moi, j'étais quand ils sont arrivés, j'ai dit, enfin, il y a des passionnés à des postes clés dans un club. C'est vrai, Mehdi Benatia est un vrai passionné. De Zerbi est plus que passionné. Bon, pour être entraîneur, de toute façon, t'es obligé de l'être. Et Longoria connaît bien le football, à défaut d'y avoir joué. Il connaît bien le football. Il est passé par différentes positions dans les clubs. Il connaît bien et surtout ils dégagent cette passion là mais ils ont pas réussi à la gérer, cette passion là donc c'est à dire que quand les critiques étaient dures, ils appelaient tout le monde en disant ouais mais là vous êtes dur et tout ça, et puis ils arrivaient à t'enrober le truc, et tu les croyais, et puis quand ça se passait bien, et ben là soi-disant, il montrait les pecs, là, comme ça, tu vois. Il bombait le torse et disait « vous avez pu critiquer. Allez. Vous avez vu les résultats quand tu as gagné un match de Ligue des Champions et que tu as cru, après Newcastle, que tu étais déjà qualifié, que tu as vendu du rêve aux supporters parce que tu t'es dit « Oh, on a accroché le PSG, match aller, au trophée. » Même dernièrement, au mois de janvier, on a accroché le PSG, on devait gagner, on a pleuré dans le vestiaire parce que vraiment, on a rivalisé, on a même fait mieux que rivaliser avec le champion d'Europe. Vous imaginez l'équipe, la progression et tout le monde s'est dit, surtout à Marseille, tu sais comment c'est un feu de paille là-bas, tu dis ça, bam, ça explose. Tout le monde dit, ah ouais, ça, c'est des cadres. Et puis, lieu de garder un peu en soi et de faire profil bas et d'avoir une autre communication, ben non, ils ont bombé le torse ensemble. On est un trio, on est un duo avec Benatia, on est très soudés. Il a même dit, le président magnifique, et en contrepartie, Longoria a dit, oh mais moi j'ai un des meilleurs directeurs sportifs d'Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Mais
c'est ce que je te dis.
Et arrivé quelques jours après, ils peuvent plus, ils s'entendent plus.
On peut tourner les arguments dans tous les sens. Je crois, en fait, de mémoire, je ne sais pas, je crois que l'an passé, ils se qualifient pour la Ligue des Champions en étant à 18 points du Paris Saint-Germain, quelque chose comme ça,
oui.
Non ? On est bien. C'est bien 18, enfin, dans ces environs. Ouais. Là, on est à 12 journées de la fin.
Oui.
Et ils sont à 11 points. 11 points à 11 points du Paris Saint-Germain.
12.
C'est-à-dire que le bilan entre l'an passé et cette année va être à peu près le même. Il y aura à peu près entre 15 et 20 points à la fin du... Et vous considérez qu'il y a eu des progrès de fait, vous ? dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le club, les rapports qu'il y a avec les supporters.
Alors justement, donnons la parole aux supporters, Jean-Michel.
Je t'assure.
Michael est là.
J'ai l'impression qu'ils ont fait, ils étaient au bord du gouffre et que depuis ils ont fait un grappin en avant.
Salut, voilà. Michael.
Salut, Michael.
Bonjour.
Bienvenue, Michael. Bon, alors, c'est quoi ton bilan là pour Pablo Longoria?
J'ai essayé de vous appeler la semaine dernière. Je vais prendre une minute si je peux ne pas être coupé.
Ah, mais on va pas te couper. Vas-y, la parole. T'as la parole.
Ok. Vous êtes en train de faire un bilan sur Longoria, donc sur ses 5 années de présidence.
C'est ça.
Factuellement, c'est 3 podiums, et votre correspondant l'a dit, donc 3 podiums, 2 demi-finales de Ligue des de Coupe d'Europe, pardon, la C4 et et l'Europa League. Vous étiez où 5 ans avant l'arrivée de Longoria? Vous aviez pas la télé, pas la radio, vous vous souvenez pas du président qu'on a eu avec des petites lunettes? Ça vous dit quelque chose? Qu'il soit pas très bon dans la communication ces derniers temps, je peux l'admettre. Vous parlez du sportif en disant il a pas gagné un trophée. Alors, vous êtes meilleur que moi, vous avez été joueur. Derrière, combien de trophées n'ont pas été gagnés par le PSG sur les 5 dernières années? Combien de clubs? Alors, on va me sortir, ok, il y a eu éventuellement un Rennes.
Oui, c'est vrai. Il y a eu Nantes-Nice en Coupe de France.
Il y a eu
la grande équipe de Nantes.
Là, vous me parlez de 160 arrivées. Je vais partir dans une autre hypothèse.
Non, 160 mouvements.
Quoi, ouais, 160 mouvements, pardon. Je vais partir dans une autre hypothèse. Il y a 160 mouvements, mais il gagne 2 titres. Vous jugez comment la présidence de Longoria?
Mais il n'a pas gagné les 2 titres.
Non, je suis en train de.
Mais s'il avait gagné 2 titres, il n'y aurait pas eu 160 mouvements.
D'accord.
Voilà. Okay. Moi, je te réponds ça.
D'accord. Bon, je suis pas certain d'avoir la même sensation que toi, Jérôme. Vous parlez de supporters, vous dites, on nous a vendu du rêve. Je pense qu'on est quand même malgré tout lucide. Quand vous dites, on allume un feu de paille, machin, moi, je vous écoute tous les jours, et il n'y a pas un débat où vous ne parlez pas de Marseille, vous êtes critique en permanence.
C'est pas vrai, là, critique non. En ce moment, oui.
Je
disais même à l'antenne à Max, je disais, là, tu vois, là, il y a Bay, il est même pas arrivé déjà qu'on lui met des bâtons dans les roues. La semaine prochaine, c'est quoi? C'est à la cantine, le cuistot, les haricots verts, ils seront pas bons, en fait, il y a Greenwood qui aura pas.
Mais non, mais on n'a pas parlé de Bay aujourd'hui,
vous
donc.
Vous allez faire un débat?
On le fera demain.
Pas aujourd'hui, mais vous l'avez fait hier ou avant-hier.
Ouais, mais on le fera demain, on sait pas.
Mais Michael, il y a un peu d'actu à Marseille, quand même.
Non, mais ce qui est important dans sa réflexion, c'est que justement, nous, si tu veux, nous, on a notre avis. Mais ce qui est important, c'est d'avoir votre avis à vous, les supporters, tu vois. Et c'est important, ce que tu dis, c'est qu'apparemment, pour toi, le bilan n'est pas si mauvais que ça. Moi, c'est ce que je disais, c'est que j'avais l'impression qu'il laisse, s'il part aujourd'hui, qu'il laisse une équipe qui n'est pas si mal que ça, tu vois, qui est quand même... qui peut être capable de faire des super matchs comme au Real. Et c'est important d'avoir ton avis à toi, parce que justement, nous, on essaye d'être neutre, si tu veux. Moi, je suis pas plus critique vis-à-vis de Marseille, de PSG, ni quoi que ce soit. Non, mais... j'ai des clubs de cœur, Lens, bien sûr, tous les clubs dans lesquels je suis passé. Mais le but, nous, c'est pas de critiquer Marseille, enfin en tout cas le mien. C'est juste d'être...
C'est juste votre travail de donner votre avis sur les sujets d'actualité.
Non, et puis Tony et Jean-Michel pour répondre à Michael. En fait, le truc, c'est que bien sûr, vous retenez les critiques de cette année parce que je pense qu'elles sont justifiées. Mais par contre, toutes les belles choses et les bonnes choses qu'on a pu dire tout au long de l'année dernière, parce qu'on en a dit beaucoup, quand les résultats étaient bons et qu'il y avait une cohérence, ça, vous l'avez oublié, en fait. Mais par contre, pour parler des supporters, c'est pas Michael qui a dû faire les banderoles, mais les banderoles, on les a vues sur le dernier match. Ils étaient pas si
merci
satisfaits
Michael,
que ça, en fait.
Qui est venu au 32-16. Jean-Michel, tu voulais dire le mot de la fin, vas-y, vite fait.
Non, je disais que Michael représente une sensibilité de supporter et il faut qu'on l'écoute. Il a du mérite et il faut le respecter. Mais Michael, les dernières réunions des supporters avec la direction de l'Olympique de Marseille, je ne crois pas qu'il y ait eu, que ce soit un ciel azur qui était au-dessus de ces réunions. Il y avait quand même des tensions, Michael, tu le reconnais.
Michael ?
Oui, mais qu'il y en ait eu, j'entends. Mais vous parlez de banderoles, quoi. Vous avez connu Marseille il y a encore 10 ans.
C'est vrai.
Là, il, quoi. si on parle en fait de supporters mécontents, il y a ça encore 4-5 ans, on parlait de Marcelinho et tout, donc là franchement, ok, bien sûr que tu peux avoir un peu de tension, mais par rapport aux dernières années qu'on a vécues, mais c'est rien en fait, il se passe rien quoi.
Mickaël, merci d'être venu au 36, tu reviens quand tu veux.
Avec Héro, t'as quand même fait une finale de Coupe d'Europe.
Avec Rudy Garcia à l'époque, en 2018. Dans un instant, le procès d'Olivier Giroud, accusé de faire l'année de trop, à tout de suite.
Bravo Rudy.